Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur.
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, on s'immerge dans une édition particulièrement dense du magazine marocain iWeek, numéro 119. C'est publié par l'ODJM Média. On est en février 2026.
Ouais, un numéro vraiment riche.
Exactement. Et pour quiconque cherche à comprendre comment les pièces du puzzle mondial s'emboîtent, ces pages sont une véritable mine d'or. On y trouve un panorama saisissant de notre époque.
C'est clair.
C'est un moment où des concepts immensément vastes, genre la géopolitique mondiale ou la haute technologie militaire, viennent percuter de plein fouet des réalités très concrètes.
Des choses du quotidien.
Voilà, comme le prix des denrées alimentaires dans nos marchés ou la sécurité de nos marchandises en mer.
C'est tout à fait ça. La mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est précisément de créer des ponts entre des événements qui, à première vue, semblent évoluer dans des univers parallèles.
On va faire le grand écart.
Absolument. Nous allons naviguer entre les plus hautes sphères de la diplomatie, avec ses discours parfois déroutants, les algorithmes qui transforment littéralement l'art de la guerre et les bouleversements logistiques.
Pour finalement redescendre vers la réalité quotidienne de la consommation.
C'est ça l'idée. C'est en reliant systématiquement le macroscopique au microscopique que l'on saisit les véritables dynamiques de notre monde actuel.
Tout est lié, en fait.
Ouais. Une décision prise dans un bureau climatisé ou une ligne de code tapée dans un laboratoire, ça finit toujours par avoir un impact sur le terrain.
Bon. Décortiquons tout ça.
Allons-y.
Et commençons par un sujet diplomatique qui remet en question les fondements même des relations internationales telles qu'on les connaît.
Un gros dossier.
Ah oui. Les documents rapportent une interview qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celle accordée par Mike Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, au journaliste Tucker Carlson.
Une séquence assez surréaliste.
C'est le mot. Les propos tenus s'éloignent radicalement du vocabulaire habituel d'un diplomate. Il y justifie un potentiel droit pour Israël de s'emparer de territoires immenses.
On parle d'une zone vraiment large.
Énorme. Englobant la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie et même de certaines parties de l'Arabie Saoudite et de l'Irak.
Et le plus frappant, c'est la justification.
Exactement. L'argument avancé n'est ni stratégique, ni lié à une notion de sécurité contemporaine. Il est purement religieux. Il s'appuie sur un soi-disant droit biblique tiré directement du livre de la Genèse.
Ce qui est fascinant ici, c'est la transition radicale que cela représente sur le plan historique.
C'est-à-dire ?
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système international moderne, celui de 1945, structuré autour des Nations Unies, repose sur des principes foncièrement laïques et juridiques.
Oui, le droit international classique.
Voilà. On parle de souveraineté des États, de frontières reconnues par le droit international et de résolution des conflits par la négociation.
Mais là, c'est tout l'inverse.
L'introduction d'un récit sacré, en l'occurrence la Genèse, comme titre foncier et inaliénable à la table de la diplomatie, ça marque une rupture conceptuelle majeure.
C'est un glissement sémantique assez vertigineux qu'on observe dans cet échange.
Totalement. Face à Tucker Carlson, qui interrogeait de manière assez pragmatique la cohérence de tout ça, l'ambassadeur a rejeté l'argument génétique ou historique moderne pour invoquer, et l'expression est très forte, les pierres qui crient.
Les pierres qui crient.
Ouais. Dans ce cadre de pensée, l'archéologie devient une foi incontestable. Cette foi devient un argument politique absolu et cette politique sert de justification territoriale.
On assiste là à l'expression d'un sionisme chrétien totalement assumé.
Absolument, où la feuille de route géopolitique est guidée par une conviction eschatologique, donc une vision liée à la fin des temps.
Je fais juste une petite pause ici pour notre audience. Il est absolument crucial de préciser que notre exploration d'aujourd'hui s'en tient strictement à rapporter l'analyse faite par les documents originaux.
Bien sûr.
On ne prend aucun parti. Notre objectif est purement analytique. On cherche juste à comprendre ce basculement d'une diplomatie basée sur le droit vers l'introduction de textes sacrés dans les relations contemporaines.
Et il faut dire que les ondes de choc ont été immédiates.
Ah ouais, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des condamnations officielles ont jailli très rapidement du Caire, de Riyad, d'Amman et de Doha.
Logique.
Ces capitales soulignent le danger extrême de remplacer le droit international par des interprétations religieuses. Ça ouvrirait une boîte de Pandore assez insoluble.
C'est un risque de déstabilisation systémique, en effet. Et le contraste offert par le magazine sur la scène diplomatique de ce même mois de février est particulièrement frappant.
Le contraste avec le Maroc ?
Exactement. Pendant que, d'un côté, on observe cette rhétorique qui puise ses justifications dans l'Antiquité, de l'autre, on nous présente l'image même de la diplomatie traditionnelle, institutionnelle et laïque.
À des milliers de kilomètres de ces discours théologiques.
Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, a reçu de manière très protocolaire 21 ambassadeurs étrangers.
Et la liste est révélatrice de l'ordre diplomatique classique.
On y retrouve des représentants du Vatican, de la Zambie, de la Côte d'Ivoire, du Danemark, du Japon. C'est l'incarnation de la diplomatie multilatérale dans toute sa rigueur.
C'est très codifié.
Très. Et cette posture est intellectuellement renforcée dans la même publication par la déclaration de Mohamed El Habib Belkouch, le délégué interministériel,
qui réaffirme l'engagement du Maroc à consolider le système international des droits humains.
Voilà, et à traduire les accords mondiaux en actions concrètes. Nous avons donc là, sous nos yeux, le choc de deux visions du monde totalement distinctes.
C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah.
Bah oui, parce que si d'un côté, on justifie la cartographie de demain avec des textes sacrés vieux de plusieurs millénaires, de l'autre, la préparation au conflit futur s'appuie sur une technologie qui relève de la science-fiction.
Le grand écart technologique.
C'est ça. Parlons de l'exercice militaire African Lion 2026, co-organisé par le Maroc et les États-Unis.
Un événement majeur.
Cette édition marque une rupture absolue. Elle intègre massivement l'intelligence artificielle. On est bien loin de la simple manœuvre de char d'assaut dans le désert, là.
On passe à un autre niveau.
On parle des SEM de drones autonomes, capables de coordonner des frappes sans intervention humaine directe. Et d'une cyberguerre menée à la milliseconde près.
Mais le concept le plus novateur, c'est ce qu'ils appellent la logistique prédictive.
Ça m'a interpellé, ça, oui.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, la logistique prédictive est ce qui change véritablement la donne.
Comment ça marche en pratique ?
Faut s'imaginer un convoi militaire traversant une zone aride. Les logiciels d'IA ne se contentent plus de calculer l'itinéraire le plus court.
Ils font quoi de plus ?
Ils analysent des milliers de variables en temps réel. La topographie, la météo, les mouvements potentiels d'une menace asymétrique et même l'usure des pièces mécaniques.
L'usure des pièces ?
Oui, l'IA peut détecter une micro-vibration anormale dans le moteur d'un véhicule blindé, anticiper que la pièce va céder dans, disons, 60 km.
Impressionnant.
Elle vérifie instantanément les stocks à la base et redirige automatiquement un drone de ravitaillement pour que la pièce arrive avant même que la panne ne se produise.
C'est fou ! La supériorité sur le champ de bataille ne se mesure plus du tout au nombre de soldats, alors ?
Ni à l'épaisseur du blindage. Elle se mesure à la vitesse phénoménale d'analyse de l'information. L'algorithme devient l'arme suprême.
C'est un peu comme si l'on passait d'un jeu d'échecs classique, où chacun réfléchit à son tour, à un jeu où l'ordinateur bouge les pièces de l'adversaire avant même qu'il n'ait formulé sa stratégie.
C'est une excellente métaphore.
Mais du coup, cette dépendance totale à l'algorithme, ça ne crée pas une nouvelle vulnérabilité ? Si l'IA gère toute la logistique, une faille cybernétique devient plus dévastatrice qu'un bombardement, non ?
C'est l'ironie de l'hypertechnologie, et c'est exactement pour cela que la cyberguerre est au cœur de cet exercice. Mais au-delà de la vulnérabilité, faut voir le message stratégique.
Lequel ?
Le fait que le Maroc accueille et co-dirige un exercice d'une telle sophistication, ça positionne le royaume comme une puissance technologique régionale de premier plan.
Pas juste un allié géographique.
Exactement. C'est une réponse directe aux menaces asymétriques, comme les groupes armés dans la région du Sahel, qui exploitent la lourdeur des armées traditionnelles.
Face à un ennemi insaisissable, il faut être plus rapide.
Infiniment plus rapide et prédictif grâce à l'IA.
Et cette capacité d'adaptation, d'agilité, on la retrouve aussi en dehors du champ de bataille. Dans le tissu économique ?
Tout à fait. L'industrie du voyage, par exemple.
Les stratégies déployées pour 2026 sont tout aussi calculées que celles de l'African Lion. Prenons Ryanair, qui déploie une stratégie estivale hyper agressive.
Ils ont changé d'approche.
Fini le temps où l'on se contentait de relier les grandes métropoles. La compagnie mise sur un maillage territorial très serré.
En utilisant des aéroports secondaires.
Voilà. Des aéroports régionaux espagnols comme Séville, Valence ou Malaga, pour desservir massivement des destinations marocaines émergentes.
Comme Oujda, Nador, Tétouan ou Essaouira.
Il y a une volonté claire de capter des flux financiers par des voies de contournement, de démocratiser l'accès.
Et cette stratégie de point à point qui évite les grands hubs saturés répond à une demande touristique d'une résilience spectaculaire.
Les chiffres de Marrakech le prouvent.
Ah oui. La Cité Ocre a enregistré 13,6 millions de nuitées sur l'année 2025. C'est colossal.
Avec un taux d'occupation de 73%, je crois.
Oui. Et ce qui révèle la robustesse du secteur, c'est la performance hors saison. Le mois de décembre a connu une hausse de 6% par rapport à l'année précédente.
Le tourisme n'est plus du tout une activité saisonnière dépendante de l'été.
C'est une machine économique qui tourne en continu. Ça exige une logistique civile sans faille pour accueillir et loger ces millions de personnes.
C'est impressionnant. Mais cette logistique repose sur des infrastructures physiques qui, elles, restent à la merci d'une force incontrôlable.
Le climat.
Le climat. Même le meilleur algorithme du monde ne peut rien contre la nature. Et c'est là qu'on trouve une ironie mordante dans notre exploration.
On est d'accord.
D'un côté, l'exercice African Lion utilise l'IA pour prévoir la moindre panne de moteur dans le désert à la seconde près. Et de l'autre, nos chaînes d'approvisionnement mondiales sont encore surprises par une vague.
L'incident du port de Casablanca illustre parfaitement cela.
L'incident du navire Ionikos, oui. Un porte-conteneur battant pavillon libérien, arrivant de Chine, violemment déséquilibré par une forte houle à l'entrée du port.
Le résultat était spectaculaire.
85 containers, remplis de pièces automobiles, de meubles et de biens divers, projetés par-dessus bord dans les vagues de l'Atlantique.
Ça a forcé la fermeture temporaire du port.
Et nécessité une vaste opération avec les hélicoptères de la gendarmerie royale et la marine.
C'est un sacré rappel à l'ordre de la nature. Cet incident met en lumière la vulnérabilité de nos chaînes hyper mondialisées.
D'un côté, une ingénierie mathématique, et de l'autre, des boîtes en métal à la merci de la houle.
D'ailleurs, un incident similaire s'était déjà produit à Casablanca en 2014, avec la perte de 27 conteneurs.
Là, on est à 85.
Perdre 85 conteneurs, c'est un événement majeur pour une économie locale. Cela soulève une question importante.
Laquelle ?
Comment un État gère-t-il la sécurité globale ? Nous avons parlé de frontières bibliques, de drones militaires, mais la protection d'une population se joue aussi dans des détails prosaïques.
Jusque dans l'assiette du consommateur.
Et la santé des troupeaux.
C'est la transition parfaite. La gestion étatique au quotidien, ça ne se limite pas aux ports et aux cieux. On apprend qu'une vaste campagne sanitaire a conduit à l'abattage de 27 500 bovins atteints de tuberculose.
Une opération d'envergure.
Ce qui retient l'attention, c'est la méthode globale. Ce n'est pas juste une mesure d'éradication. Les propriétaires ont été financièrement indemnisés.
C'est crucial pour l'économie rurale.
En parallèle, il y a eu un renforcement drastique des contrôles sur la filière du lait. C'est une gestion de crise à 360 degrés.
On élimine la maladie, on protège la santé publique, tout en évitant l'effondrement social des éleveurs. Et cette logique de bouclier protecteur, on la retrouve sur le front de la consommation courante.
Pendant le mois du Ramadan.
Exactement. Du document détaille le bilan des inspections gouvernementales. C'est une période de consommation massive, historiquement propice à la spéculation sauvage.
Les chiffres de l'État sont impressionnants.
43 412 opérations de contrôle.
Des commissions mixtes locales qui fouillent les marchés de gros et les grandes surfaces. Ce ne sont pas les visites courtoisies. Hein.
Ça a généré plus de 4000 procès-verbaux, c'est ça ?
4038, très précisément.
Pour des infractions sérieuses, spéculation illégale, dissimulation des prix, stockage clandestin visant à créer des pénuries artificielles.
Tolérance zéro face à l'inflation.
L'objectif est d'assainir les circuits de distribution pour garantir que le pouvoir d'achat des citoyens ne soit pas pris en otage.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Avant de prendre un peu de hauteur, passons à notre séquence de rafales d'informations.
Les fameuses pépites de la semaine.
Car l'analyse de ces documents nous offre aussi une série d'actualités rapides qui dessinent les contours des mois à venir. On commence par le sport. Nomination d'Abdelhadi Rascou à la tête de la chaîne sportive nationale à Riyadia.
Remplaçant Hassan Boutabessil après plus de 10 ans, l'objectif est clair, mettre la machine en ordre de bataille pour la CAN 2025 organisée par le Maroc.
Le soft power par le sport nécessite une infrastructure télévisuelle de pointe. Et côté culture, Abdessamad Moutia, nommé directeur de l'ISMAC.
L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma signe qu'un État moderne sait que la production de son propre récit culturel est une arme stratégique.
Sur le terrain des exportations, le Maroc s'impose agressivement sur les marchés européens des engrais agricoles et des légumes frais.
Ce qui souligne que l'influence internationale se joue aussi sur la souveraineté alimentaire. Contrôler les engrais, c'est stratégique.
Côté médical, la chirurgie robotique fait son entrée remarquée à Tanger, sous l'égide du groupe Oncorad.
La preuve que la santé de pointe se démocratise régionalement, au-delà des grandes capitales administratives.
Restons dans l'innovation, le hackathon Ramadania s'est déroulé dans les 12 régions du royaume.
Un excellent moyen de stimuler l'écosystème technologique local et de repérer les jeunes talents de l'intelligence artificielle.
En parlant d'IA, Sony envisagerait de repousser la sortie de la PlayStation 6 jusqu'en 2029 pour y intégrer les dernières avancées de l'IA générative.
La technologie évolue plus vite que la capacité des géants industriels à l'encapsuler dans une console. C'est fascinant.
Enfin, Bill Gates s'est officiellement excusé auprès du personnel de sa fondation pour ses liens passés avec l'affaire Jeffrey Epstein.
Même l'aura de la philanthropie milliardaire n'est plus un bouclier face aux scandales moraux mondiaux.
Quel vertige ! En l'espace d'une discussion, nous sommes passés des couloirs de la diplomatie mondiale aux champs de manœuvre bardés de capteurs jusqu'aux étalages des marchés sous surveillance.
Si l'on doit synthétiser l'image globale, c'est le portrait d'un monde soumis à des forces de tension extrêmes.
Entre le passé et le futur.
Voilà. D'un côté, des résurgences du passé lointain, avec ses frontières bibliques imaginées qui menacent l'ordre juridique de 1945.
Et de l'autre, l'African Lion.
Projeté dans le futur, confronté à la rationalité glaciale d'une cyberguerre algorithmique où l'humain est presque spectateur.
Et au milieu de tout ça, l'État gère l'urgence du quotidien matériel.
Il doit s'assurer que l'agriculteur ne fait pas faillite à cause de la tuberculose, que la ménagère peut acheter ses tomates sans subir la spéculation et qu'une tempête ne paralyse pas l'économie avec des conteneurs à l'eau.
Pour quiconque prête attention à ces dynamiques, il est évident que le cloisonnement de l'information, c'est une illusion totale.
Tout est interconnecté.
Garantir l'intégrité des prix pendant le jeûne, ça côtoie les avancées de l'IA militaire. On ne peut pas comprendre l'économie locale sans regarder la marche frénétique du reste du monde.
Ce constat m'amène à une dernière réflexion pour prolonger notre analyse vers des territoires inexplorés.
Je t'écoute.
Nous avons vu que l'IA optimise la logistique d'une guerre dans le désert avec une précision infaillible. Elle dicte même ses délais à Sony.
Oui.
Si cette technologie devient si douée pour anticiper le chaos, à quand le moment où l'humanité lui confiera la gestion intégrale des flux maritimes pour éviter qu'un navire comme le Ionikos ne perde sa cargaison indectique?
Une prédiction météorologique croisée à la physique des fluides.
Exactement. Voire même, et là je pousse la logique à l'extrême, verrons-nous le jour où nous lui demanderons de modéliser des traités de paix diplomatiques impartiaux?
Des traités gérés par des algorithmes?
Des traités basés uniquement sur des données géographiques et économiques réelles. Loin, très loin des interprétations religieuses conflictuelles et des échos lointains des pierres qui crient.
C'est une perspective vraiment vertigineuse. Ça questionne la place qu'on acceptera de concéder à la rationalité de la machine face à l'irrationalité des croyances humaines.
Tout à fait.
Eh bien, c'est sur cette interrogation fascinante que s'achève notre exploration en profondeur du jour. Il ne reste plus qu'à garder l'esprit ouvert et à se préparer pour notre prochaine analyse détaillée.
Merci de nous avoir suivis.
À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.